Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle portant sur les actualités du SEL. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée un peu exceptionnelle, Madame Sophie Nasrallah. Madame Sophie Nasrallah, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes en communication, moi depuis la France, vous depuis le Liban, et nous allons revenir dans cette émission sur ce qui s'est passé il y a à peu près un an avec la double explosion qui a eu lieu à Beyrouth au début du mois d'août de l'année dernière, suite à laquelle le SEL s'est engagé dans une action de secours d'urgence avec l'organisation Merat, dans laquelle vous travaillez comme chargée de la communication et des relations avec les partenaires. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé au début du mois d'août ?
Oui, alors bonjour à tous. Donc le 4 août 2020, il y a eu comme ça, venu de nulle part, cette explosion, cette double explosion au port de Beyrouth, donc qui se situe en plein cœur de la capitale et juste à côté de nombreuses habitations. Et donc cette explosion a fait de nombreux blessés, de nombreux morts, et surtout a aussi laissé de nombreuses personnes, des centaines de milliers de personnes sans domicile. Et c'est survenu à un moment où le Liban était déjà confronté à de très nombreuses crises, différentes crises politiques, économiques, sociales. Donc l'impact sur les gens a été très, très dur.
Par rapport justement à ce contexte marqué par différentes crises, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu la situation au Liban ? Peut-être commencer par dire quelques mots de la crise économique.
Oui, bien sûr. Alors, la crise économique au Liban a démarré à l'automne 2019. Elle couvait un peu depuis plus longtemps et en fait, il y a eu de grandes manifestations. Et donc, depuis l'automne 2019, il y a une grave crise bancaire, économique dans le pays. Là, à l'heure actuelle, donc en un an et demi, la monnaie locale a été dévaluée par plus de 10 fois. En fait, les prix de la plupart des biens de consommation courante ont explosé. Le chômage a aussi explosé. Donc, les gens ont moins de ressources et les ressources qu'ils ont ne valent plus rien. En parallèle, il y a une crise bancaire. Le Liban a fait défaut de paiement sur sa dette et les banques ont restreint les accès aux capitaux. Donc, les gens ne peuvent plus accéder à l'argent qu'ils avaient en banque.
Concrètement, comment font les gens au quotidien ?
Je ne sais pas. Je me pose la question, comment jusqu'à maintenant les gens ont-ils réussi à tenir ? Je pense que c'est lié à une très, très grande solidarité intrafamiliale, intergénérationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, il y a le Covid dans tout ça. Donc, les garderies, les écoles sont fermées, étaient fermées, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je pense que voilà, les grands-parents gardent les enfants. Il y a une vraie solidarité, en fait. Et puis, il y a beaucoup de Libanais à l'étranger qui peuvent envoyer un peu, aider leur famille au Liban. Et puis, l'aide humanitaire aussi. Là, les derniers chiffres, il y a de plus en plus de gens qui ne survivent que grâce à l'aide humanitaire.
Vous avez évoqué la crise sanitaire avec le coronavirus. Quelle forme ça a pris au Liban ? Quels effets justement sur le plan sanitaire ou peut-être sur le plan des restrictions imposées à la population ?
Donc au Liban, ils ont pris la décision très tôt de tout fermer pour éviter que ça se propage justement dans les conditions de crise économique auxquelles le pays était confronté. Alors ça a été efficace en termes sanitaires. Le problème, c'est que ça a été catastrophique en termes économiques. Au Liban, il y a énormément de personnes qui sont dépendantes d'un revenu journalier, notamment les réfugiés syriens, qui représentent presque un quart de la population totale au Liban. Donc, c'est énorme. C'est le pays au monde où il y a le plus grand ratio de réfugiés par rapport aux habitants. Et donc, ces gens-là n'ont pas de travail régulier. Ils travaillent un peu au jour le jour en fonction des besoins. Et donc, quand il y a un confinement, ça les atteint énormément. Ils n'ont pas d'économie, ils n'ont rien. Ils vivent au jour le jour. Donc, ça a été très, très dur.
Vous évoquez la présence d'un très grand nombre de réfugiés syriens au Liban, par rapport le ratio par rapport à la population totale. J'imagine que ça aussi, c'est un défi pour la vie de la société libanaise.
Oui, tout à fait. On imagine mal un quart de réfugiés en France. Ça ferait... Non, je ne suis pas très bonne en maths.
Ça ferait plus de 15 millions. Hein.
Ça ferait plus de 15 millions. Donc, c'est des quantités assez inimaginables. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, le Liban a vécu 15 ans de guerre civile. Et pendant cette guerre civile, la Syrie a occupé militairement le Liban. Et même à l'issue de cette guerre civile, la Syrie occupait militairement le Liban jusqu'en 2005, donc jusqu'il n'y a vraiment pas longtemps. Et donc la Syrie, les Syriens, pour la plupart des Libanais, étaient toujours considérés comme les ennemis. Et donc quand la guerre a commencé en Syrie en 2011 et que les réfugiés syriens ont commencé à venir se réfugier au Liban, ça faisait même pas 6 ans que la Syrie n'occupait plus militairement le Liban.
Je voudrais vous proposer de nous présenter en quelques mots l'organisation pour laquelle vous travaillez, Merat, sa manière d'agir. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Donc, nous, Merat, on est une association chrétienne libanaise. On est une petite équipe de 11 personnes. Et on met en place des projets humanitaires, d'assistance humanitaire et de développement, et aussi des projets éducatifs pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école. Et notre spécificité, c'est qu'on fait tout ça à travers un réseau d'églises au Liban et en Syrie. Donc, on a à peu près 50 églises partenaires, et on a aussi une église partenaire en Irak. Et à travers ces 50 églises, on a donc une trentaine de projets. On arrive à aider en moyenne environ 10 000 familles par an. Donc, soit avec de l'aide alimentaire, soit de l'aide en hiver, avec des distributions en hiver pour que les familles restent au chaud, des projets éducatifs, comme je disais, des projets plus de développement, d'agriculture.
Qui sont les familles que vous aidez?
Alors, les gens qu'on aide, ce sont ceux qui sont dans le besoin. Donc, quel que soit... les autres critères, religion, ethnie, ce sont vraiment les gens qui sont le plus dans le besoin. On forme nos églises partenaires à savoir justement décider qui aider en fonction de critères de vulnérabilité, qui sont des critères très objectifs. Et donc, il se trouve que pendant de nombreuses années, ces gens qui sont le plus dans le besoin étaient presque exclusivement des réfugiés syriens. Maintenant, on observe que... Il y a aussi des familles libanaises qui sont vraiment dans un très grand besoin à cause de la crise dont je parlais. Et il y a aussi toute une population très vulnérable de travailleurs migrants.
Concrètement, comment le travail se répartit entre vous d'un côté et les églises du réseau qui fait quoi?
Donc concrètement, travailler via des églises, c'est-à-dire que ce sont elles qui sont sur le terrain, ce sont elles qui sont en première ligne avec les bénéficiaires, qui distribuent l'aide, qui gèrent les projets au quotidien. Notre apport, nous, est plus dans l'ombre. On aide avec la partie technique, tout ce qui est technique, tout ce qui requiert des compétences techniques. On aide avec, bien sûr, la recherche de financement. On aide à penser le projet, on aide à lancer le projet. Quand le projet est en route, on aide à s'assurer que tout se fait bien selon les meilleurs standards possibles. Donc, on contrôle ce qui se passe, on évalue et on s'assure que tout se passe de manière professionnelle. Donc, on voit notre rôle vraiment comme un facilitateur. Nos églises partenaires, elles ont ça à cœur d'aider les plus vulnérables parce que c'est dans leur ADN en tant qu'église, en tant que chrétien, c'est dans notre ADN. C'est dans nos enseignements bibliques d'aider les plus vulnérables autour de nous et de le faire de manière inconditionnelle. Voilà, on croit que Jésus avait compassion des gens, il les aidait, il les guérissait sans forcément attendre rien en retour. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple des 10 lépreux que Jésus a guéris, sachant que seulement un allait revenir vers lui. Les églises avec qui on travaille connaissent ces personnes, elles sont dans la communauté. Et donc, elles visitent ces personnes, elles connaissent leurs enfants, elles connaissent les noms de leurs enfants, elles prennent de leurs nouvelles, Et il y a vraiment une relation qui s'instaure qui non seulement aide les gens matériellement, mais émotionnellement et psychologiquement. Et ils se sentent soutenus, ils sentent que quelqu'un est là pour eux. Et ça fait une très grande différence et on l'entend beaucoup de la part des bénéficiaires que c'est encore plus important que l'aide elle-même.
Est-ce que vous pourriez maintenant nous présenter un petit peu ce qui a été financé par le SEL à l'occasion de cette action d'urgence suite à l'explosion?
On travaillait déjà avec le SEL avant la crise. Et là, c'est vrai qu'avec les crises économiques et sanitaires, on est très reconnaissant parce que le SEL a augmenté son support de façon substantielle et a contribué à financer de nombreux bons alimentaires, donc des bons alimentaires et de produits d'hygiène pour les familles dans le besoin, ainsi que des milliers de kits d'hygiène, donc des kits, des cartons qui contiennent des produits d'hygiène et des produits ménagers, qui sont devenus très 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 chers et que les familles n'arrivent plus à se procurer. Le SEL a aussi contribué à fournir des kits d'hivernage aux familles dans le besoin l'hiver dernier.
Je comprends en fait que ce qui a été financé par le SEL l'a été à l'occasion de cette explosion, mais en fait bénéficie à la fois aux personnes vulnérables victimes de l'explosion et aux personnes vulnérables de la situation dans la situation plus globale que vous avez décrite. Et justement, par rapport à cette situation plus globale que vous avez décrite, vous nous en avez un petit peu donné les différents éléments, mais c'est une situation qui est particulièrement dure et qui est une situation qui s'étale sur la durée depuis assez longtemps. Comment est-ce qu'on continue à savoir quoi faire et comment vivre dans l'espérance au sein d'une situation aussi difficile? Comment vous faites au quotidien et les églises avec lesquelles vous travaillez?
Une très bonne question que je me pose souvent et que je pose toujours aux églises parce qu'elles sont vraiment en première ligne et c'est elles qui connaissent les familles et leurs histoires. Et c'est très dur, honnêtement, par moments c'est très dur, par moments oui, on est découragé, d'autant plus que quand on analyse la situation, on voit aucune issue à court terme. Je dirais que justement parce qu'il n'y a aucun espoir à vue humaine, ça nous rappelle tout simplement qu'il n'y a aucun espoir en dehors de Dieu. Et c'est vrai que nos églises partenaires, c'est ce qu'elles nous disent, c'est que c'est leur espoir, leur espérance en Dieu qui les fait tenir. Quelqu'un m'a dit une fois qu'une phrase qui m'est toujours restée, c'est que notre aide, c'est comme une goutte d'eau dans un désert de misère. Mais là où cette goutte d'eau tombe, une fleur pousse. Il y a un désert de misère qui continue de s'agrandir, malheureusement. Les besoins sont toujours de plus en plus grands. Mais le soutien qu'on apporte via ces églises permet à des fleurs de pousser, néanmoins, dans ce désert. Et ces églises, au jour le jour, elles voient ces fleurs et c'est ça qui les fait continuer à aller de l'avant.
Merci beaucoup, Madame Sophie Nasrallah, d'avoir bien voulu répondre à mes questions et pour ces dernières paroles qui donnent bien le ton aussi de ce que ça peut être une action chrétienne dans un monde en détresse, que ce soit le SEL, que ce soit ses partenaires, que ce soit en fait toute personne chrétienne ou toute organisation chrétienne ou église chrétienne qui se met à l'œuvre pour faire le bien pour son prochain. Pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le SEL et sur les actions soutenues par le SEL, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.selfrance.org, www.selfrance.org, et notamment aller regarder dans la rubrique Secours d'urgence pour découvrir ce que nous faisons dans ce domaine-là.